Parole d'auteur. Parole d'auteur, Bellita de Bangy.
Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Une Toulousaine qui habite dans la montagne noire, Karine Sanséry, auteur, peintre, artiste et beaucoup d'autres choses. Un livre ou un livret, une histoire très intéressante qui se passe en Polynésie, mais ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vécue. Karine Sanséry, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir à Radio Présence, nous présenter votre livre qui se passe en Indonésie. Et excusez-moi d'avoir fait un lapsus. Et de venir jusqu'à nous pour nous présenter ce livre qui, comme je viens de l'expliquer à nos amis auditeurs, est très particulier puisqu'il y a des poèmes, de la poésie, de la réflexion et surtout beaucoup de peinture. Et aussi quelque chose de moderne et contemporain, des QR codes pour nous faire... voyager dans votre, en même temps que vous, dans ce périple extraordinaire que vous avez fait là-bas dans ces îles. Je vous donne la parole pour nous expliquer un peu ces deux voyages extraordinaires que vous avez fait dans ces îles et qui vous ont permis de nous ramener ce livre qui s'appelle Échographie et Anima Marin. Chez les Bajos, nomades des mers, puisque c'est la tribu où a été Karine avec son compagnon. Dans les deux cas, les deux livres qui sont reliés sur un seul livre se passent chez les Bajos, qui sont des véritables nomades des mers. À vous, Karine Sanséry, de nous expliquer un peu pourquoi vous êtes partie dans ce pays et surtout dans ces îles lointaines.
Bonjour Bellita, merci de m'accueillir. Oui, effectivement, ce livre, en fait, est un regroupement de deux expositions qui ont été réalisées à la suite de ces deux voyages. Donc, en 2018, je suis allée rencontrer les nomades des mers en Sulawesi, au large des îles Togian. Et en fait, j'ai...
Précisez un peu, parce que c'est quand même très très loin et je pense que peu de nos auditeurs connaissent.
La Sulawesi, c'est une île en Indonésie qui est, on va dire, au nord-est de Bali.
Voilà, Indonésie au nord-est de Bali.
Voilà, voilà, ça c'est une grosse île, c'est la plus grande île en forme de K, la Sulawesi.
Sulawesi.
Voilà.
Combien d'habitants à peu près ? C'est pas encore un lieu touristique très connu.
C'est très sauvage par rapport à toutes les autres îles ou les villes qu'on peut rencontrer en Indonésie. La Sulawesi est peu visitée. Il y a un peu de tourisme, mais je pourrais pas dire exactement le nombre d'habitants. Après, on était essentiellement en mer avec ce peuple Bajo, donc qui regroupe, on va dire, 300 habitants sur un petit rocher de 300 mètres de long. Donc, assez dense pour l'espace qu'ils peuvent avoir en pleine mer.
Donc, alors attendez, si je comprends bien, vous êtes parti en Indonésie, accompagné, parce que c'est quand même un voyage qui est très très loin. Je crois que vous mettez 22 heures pour y aller.
À peu près 22 heures, hein, oui. Il faut prendre l'avion jusqu'en Indonésie, Jakarta, puis après partir en Sulawesi, reprendre un avion. Reprendre un troisième avion pour arriver au nord de l'île de Sulawesi et après ces bateaux et barques pour arriver dans le village de ces nomades des mers.
Voilà, chez les Bajos.
Chez les Bajos.
Et ils sont 300.
Et ils sont 300 sur un rocher de 300 mètres de long, hein, où ils ont des maisons sur pilotis qui sont arrimées à ce rocher tout autour. C'est à l'origine des nomades, donc ils vivaient en pirogue, des familles entières, c'était vraiment leur habitat, la pirogue, ils pouvaient se déployer leur corps juste en plongeant, parce que c'est des plongeurs, des pêcheurs, des plongeurs hors pair, et donc des familles entières habitaient sur des grosses pirogues, où ils cuisinaient, ils dormaient.
Ils dormaient sur leur pirogue ?
Ils dormaient sur leur pirogue, vraiment toute l'activité était faite dans la pirogue.
Alors excusez-moi, parce que maintenant que j'ai lu votre livre, ils dormaient sur les pirogues étaient différentes de celles qui sont sur le livre ?
Alors actuellement, oui, c'est des plus petites pirogues parce qu'ils sont semi-sédentarisés, donc ils ont d'autres moyens, ils ont des pirogues à moteur. À l'époque, c'était des pirogues qui étaient animés par des cerfs-volants qui et en fait ils pouvaient dormir dans la cale de la pirogue. Ils cuisinaient au bout d'un coin de la pirogue avec ils pouvaient faire des petits feux. Ils avaient toute une méthode de cuisson qui se faisait en bout de pirogue, et après tout l'espace de la pirogue était assez restreint, mais ils pouvaient déployer leur corps en étant dans l'eau. Donc c'est des gens qui vivent 80% du temps dans l'eau. Ils pêchent et ils jouent, les enfants jouent, enfin ils sont dans l'eau.
C'est un climat très tempéré pour pouvoir vivre ça.
Oh oui, toute l'année, il y a à peu près la même température. Il fait très chaud et je dirais autour des 35 à 40 degrés. Et l'eau est assez chaude quand même aussi. Et il y a en période d'hiver, en décembre, janvier, il y a beaucoup de vent et des pluies, mais il fait quand même toujours très chaud.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient quand il y avait vent et pluie, ces badjos, ces nomades des mers?
Alors, ils restent dans le pirogue, après, ils pêchent quand même. Hein, ils sont,
ah oui, rien ne les arrête.
Quand ils sont dans l'eau, de toute manière, ils sont assez protégés de ces intempéries. Hein, ils sont,
oui.
À part les gros courants, s'il y a beaucoup de vagues, voilà, ça peut être un peu gênant pour la pirogue. Mais après, en général, ils sont assez... ils s'arrêtent sur des îlots qui leur permettent de se...
Ces maisons sur pilotis, c'est ça que vous voulez dire, ou sur des petits îlots?
Alors, actuellement, ils sont sur des maisons sur pilotis, en fait.
Depuis quand ont-ils ces maisons sur pilotis?
Maintenant, ça fait une vingtaine d'années, oui. qu'ils ont été... dans l'obligation en fait de s'installer entre deux, ni sur la terre ferme, parce que c'est pas une culture qui peut permettre de vivre sur la terre ferme, parce qu'ils ont des croyances qui sont liées à la mer, et pour eux ça serait dramatique. Donc ils vivent entre deux sur des maisons sur pilotis au-dessus de l'eau, en fait. Ils sont vraiment en pleine mer et ils ont des droits de pêche sur des périmètres délimités aujourd'hui, et de temps en temps, une à deux fois par an, ils peuvent partir pour un mois en pirogue comme ils pouvaient vivre avant, et pour aller retrouver d'autres nomades de mer jusqu'aux Philippines.
Je me permets de vous interrompre, Karine Sanseri. Qui a a formaté tout ça, puisque avant ils étaient sur les pirogues, et qui a maintenant obligé les maisons sur pilotis?
C'est le gouvernement indonésien. Dans les Philippines, ils sont encore nomades, ils vivent encore de la même manière qu'il y a une vingtaine d'années. Après, en Indonésie, c'est le gouvernement qui a imposé cela.
D'accord, il y a eu
une décision politique oui.
qui a été bien acceptée par les Badjos.
Pas du tout. C'est un peuple racine hein, qui, comme tous les peuples autochtones, sont en train de disparaître. Et aujourd'hui, ils ont ces conditions-là qui leur permettent de pouvoir continuer à pêcher et avoir une pseudo-autonomie. Mais au fil des années, petit à petit, ils s'intègrent à une vie de plus en plus moderne qui fait qu'ils pêchent encore, mais ils font d'autres activités aujourd'hui.
Vous avez dit, en parlant des Badjos, c'est un peuple racine. Ça veut dire quoi?
Un peuple autochtone, une communauté animiste qui vit en pleine nature. Alors eux, c'est le monde de la mer, donc ils ont des croyances qui sont liées aux poissons, à l'eau, et donc avec des rites. Et ils sont aussi maintenant musulmans, donc ils ont les deux côtés animistes musulmans.
Ils ont fait une synthèse des deux.
Voilà, parce que l'Indonésie est 90% musulmane et que ça s'est intégré... depuis pas mal de temps, je ne pourrais pas dire exactement combien d'années, mais aujourd'hui, ils cohabitent entre imam et chaman.
Donc oui, ce qui est quand même très original.
C'est très original, c'est assez surprenant. Mais
sans explosion.
Aucune explosion. Il y a vraiment une culture du respect et surtout du partage de ces deux cultures qui fonctionnent très bien. Ils sont à l'écoute, il y a Moi, en tout cas, le peu que j'ai pu vivre avec eux sur ces 3 années, 2 mois à chaque fois, je n'ai jamais vu de conflit, un respect total des femmes, des enfants, des partages de tâches. C'est un peu un monde à part parce que ils sont 300 donc sur un espace qui fait 300 mètres de long. Ça veut dire qu'ils sont vraiment, il y a une densité. Ils survivent quand même aussi en mer. Donc s'il y a une problématique, il faut qu'ils soient. Ils ont une méthode de vie. Il faut qu'ils soient en accord pour pas être en danger. Et donc ils sont très solidaires. C'est communauté.
L'intelligence de la survie quand même.
Exactement.
Oui. Alors je suis quand même très très intriguée. Vous me dites que l'imam et le chaman sont un couple.
Oui.
Alors que prêche l'imam et que prêche la chamane, puisque quand même ce sont des choses très différentes. Il y en a un qui est animiste, l'autre qui est musulman. Et vous avez été au prêche de l'un et de l'autre. Et c'est...
Disons qu'on a participé à des cérémonies où que ce soit des mariages.
Il se passe la main. Ah oui, les cérémonies sont mixtes.
Voilà, il y a une première partie qui se fait avec la religion musulmane. Donc, et la deuxième, après, avec tous les rites animistes qui suivent. Donc... vraiment, c'est un partage. C'est comme si c'était assez complémentaire.
Ils ont l'intelligence de s'entendre.
Voilà.
Ça, c'est quand même incroyable. Les rites animistes qu'ils pratiquaient, quels étaient-ils ?
Alors, par exemple, quand il y a une naissance, ils vont faire une petite barque avec des offrandes et aussi mettre le placenta à la mer, ce qui permet la protection du nouveau-né. Car ce placenta, c'est comme si c'était le jumeau de ce nouveau-né qui le protégera toute sa vie. Ils font ce don à la mer. Et en retour, ce sont les animaux marins qui vont le protéger. Alors ça, c'est quelque chose d'assez beau parce qu'ils passent pas mal de temps à confectionner cette mini barque où il y aura les offrandes. Et après, pendant les mariages.
Donc ça, c'est le côté animiste. Et que fait l'imam, lui, de son côté pour le baptême ?
Alors après, c'est...
Enfin, pour la naissance, pardon. J'ai employé
pour la
terme.
Naissance, c'est les pratiques musulmanes habituelles qui se fait par la suite.
Donc la famille fait les deux.
Ils font les deux.
Quelle tolérance! C'est extraordinaire.
Oui, après...
Quelle réussite, quel succès!
Disons qu'ils sont... Ils prennent, je pense, de chaque croyance des choses qui les amènent à l'harmonie. Parce que c'est un peuple qui vit en harmonie avec l'élément qu'il a autour de lui et qui vit au présent. Ça a été très, très interpellant pour nous quand on est arrivé là-bas. Et vivre le quotidien comme ils le vivent, c'est assez déroutant pour des Occidentaux parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre... au présent comme cela, parce qu'on projette toujours au lendemain. Eux, même à une heure après, ils ne peuvent pas projeter. Donc, ça s'organise autrement. Et ça, il faut le comprendre au début. Et ça fait un bien fou. Ça recentre énormément.
C'est-à-dire qu'en fait, ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir de tempête. Ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir de catastrophe. Donc, ils vivent l'instant présent sans penser à demain.
Tout à fait, et c'est d'autant plus intéressant parce que pour eux, ils ont une joie de vivre cet instant présent. Et alors, quand il y a des morts dans la communauté, ils le vivent avec une joie, j'allais dire, parce qu'ils sont tout le temps dans le fait de vivre chaque instant, et la mort n'est pas une fin en soi pour eux, et ils rejoignent le monde marin, donc c'est comme une
oui,
libération.
Oui, parce que pour un adulte, alors si un adulte décède, donc en cas de mort, le corps est donné à la mère ?
Non, le corps est enterré, c'est la seule chose qui pour eux, en fait, leur donne accès
à la terre,
et c'est pour ça qu'habiter sur la terre, c'est très compliqué pour eux, parce que c'est mourir sur la terre, en fait.
La symbolique, la terre, c'est la mort.
C'est la mort, voilà.
D'accord. Donc on leur a imposé ça il y a une vingtaine d'années et ils ne doivent pas être très contents quand même.
Oui, ça a été très dur. Et puis même tout ce qui est scolarisation, ça n'a pas marché beaucoup au début parce que c'est une population, une culture orale en fait. Et donc après, une éducation de l'écriture a été très compliquée.
Mais dites-moi, alors, vous êtes parti dans ces îles, retrouver ces Bajos, qui sont quand même des gens que personne ne connaît certainement autour de nous. Les gitans des mers, j'ai vu qu'on pouvait dire ça, oui, puisqu'ils s'appellent Seas Gypsy, et les nomades de la mer. Comment avez-vous pu communiquer avec eux ? Vous êtes arrivé, vous parliez anglais et français, et eux ?
Alors, en fait, eux parlent le langage, le bahasa indonésien, le langage général indonésien, plus oui. le bajo, leur langue, oui. leur dialecte. Et donc, nous avons on a appris l'indonésien, hein, le bahasa indonésien, un peu avant de partir, donc c'était assez succinct. Mais,
la méthode assimile, on dit le son.
Voilà, exactement. Et après, on continuait tous les jours à travailler sur place l'apprentissage en indonésien. Et on a voulu apprendre un petit peu le bajo aussi pour échanger avec eux ou les plus anciens. Mais c'était de la rigolade parce qu'on a appris quelques mots, mais on pouvait communiquer avec eux en indonésien. Donc on philosophait pas, hein. c'était vraiment du basique dans l'échange, mais
il y a pas eu de quiproquo.
Pas du tout, ça a été
jamais.
Sauf justement cette explication sur le fait de vivre le présent, ou quand eux ils disent demain, ça peut être dans une heure, ça peut être demain, après-demain, dans un mois, demain c'est plus tard. Donc ça, on a appris cette notion au fur et à mesure. Donc pour préciser les choses, il faut pas dire demain, quoi. C'est une heure avant, on se dit oui, le temps le permet, on voudrait faire ça, donc est-ce que c'est possible? On regarde le temps et puis on se dit oui, c'est maintenant, ou sinon ça sera plus tard.
Quand vous êtes rentré en France, comment vous êtes-vous comporté en face de vos contemporains, c'est-à-dire des gens comme moi, qui disent que demain, c'est vraiment demain? Est-ce que vous n'étiez pas trop déphasé?
Si, on a mis du temps à
atterrir.
À atterrir on a eu beaucoup le mal de terre, parce que rester en mer sur des pilotis, ça tangue pas mal, et le retour a été un peu dur. Et on se disait, bon, il faut qu'on arrive à garder cet état d'esprit du présent. Ça se dissipe très vite au bout d'une semaine déjà.
On est rattrapé par notre société.
Voilà, on est obligé de prévoir ce qui va se passer la semaine d'après. Donc
oui, ou même le lendemain.
Voilà,
on est obligé de prévoir l'essence pour monter à la montagne. voilà. Et en fait, quand vous êtes parti, saviez-vous que vous alliez vivre dans l'eau avec eux, ou tellement en contact avec l'eau? Est-ce que vous saviez en réalité où vous partiez?
En disant qu'en 2007, la première fois, on a fait plusieurs villes de la Sulawesi, et c'est là qu'on les a rencontrés. Et on a décidé le projet 2 ans après pour revenir et vivre avec eux et travailler avec eux après cette rencontre.
Parce qu'ils auraient pu quand même vous rejeter.
Complètement. Mais quand on les a rencontrés, ils nous ont vus dessiner, ils nous ont vus témoigner de ce qu'ils étaient, un peu de passage comme ça. Et ils étaient très avides de nous recevoir et de parler de leur peuple.
Vraiment. Alors, c'est vraiment un coup de chance. C'était quand même un coup de poker. C'est
tout
votre dessin, puisque vous êtes une artiste et votre compagnon aussi est un artiste. Donc, de vous voir dessiner ce qui est une forme de communication, ça les a séduits. Parce qu'il n'y avait aucun touriste avec vous.
Bien sûr, on est arrivés. En fait, la première rencontre s'est faite sur une plage où ils ont un lieu où ils réparent les pirogues. Et on est arrivés pour dessiner et on s'est croisés. Et là, ils étaient tous en train de réparer les pirogues. On a eu un petit peu peur. Au début, on s'est dit, oh là là, on rentre dans leur monde, là,
et oui.
Comment ils vont nous recevoir?
Oui.
Donc, on s'est arrêtés, on s'est assis, et à l'endroit où on les a vus, on s'est assis, et on s'est posé, on a attendu, et on a dessiné. Et mon compagnon a commencé à faire des portraits, à dessiner les pirogues, toute la scène qui était sous nos yeux. Et là, progressivement, il s'approchait de nous, par étapes, discrètement, jusqu'à venir derrière nous pour voir ce qu'on faisait. Ils étaient intrigués de ce qu'on était en train de faire. Et là, quand ils ont vu qu'on les avait dessinés, ça a été l'euphorie du groupe. Et pour eux, je vous dis, tout ce qui est écrit, ils n'avaient jamais vu de peinture, de papier.
Vous les avez apprivoisés, comme dirait le petit prince.
Peut-être, après...
Oui, je pense que c'est ça, en fait, puisque c'est la première chose qu'il faut faire. On met des mots savants, mais...
Voilà, ça a été une rencontre dans les deux côtés. Enfin, on s'est pas imposé, on a attendu de voir ce qu'ils voulaient faire et si on les dérangeait ou pas. Et puis, quand ils ont vu ce qu'on faisait, ils étaient ravis de ça. Ils nous ont invités d'aller en face. On était sur un petit îlot, donc eux, ils avaient le village... je dirais à 1 kilomètre sur leur rocher.
Et comment communiquez-vous là ?
Alors là, au début, c'était avec des signes, des dessins, mais
on se comprenait. Parce que vous invitez à aller les rejoindre sur leur île, enfin chez eux, alors que vous étiez en train de dessiner sur votre îlot, ça ne devait pas être évident.
Et non, on s'est amusé, on a fait des mimes, on a fait des dessins, et on s'est plus ou moins compris. Il y avait l'institutrice du village qui parlait un peu l'anglais, donc on a pu un peu échanger pour leur dire qu'on aimerait bien revenir et leur expliquer le projet qu'on avait. Et qui nous a dit « Ok, revenez ». Mais ça a été assez succinct aussi.
Alors, ce projet extraordinaire de partir aussi loin chez les nomades des mers, en Sulawesi, chez les Badjos, il y a un côté culturel, mais après avoir lu vos deux livres qui sont reliés en un seul, j'ai quand même l'impression qu'il y a une recherche personnelle, humaine, de vous découvrir et d'aller au plus profond de vous.
Oui, mais ça s'est présenté comme cela. Je ne savais pas que j'allais...
C'est pas qu'un voyage plaisir.
Non, déjà, on voulait nous témoigner. Mon ami fait du carnet de voyage et moi, je voulais témoigner d'une création plastique pour faire une exposition sur le monde des Badjos. Et en fait, j'avais pas pris conscience que j'allais être... 80% du temps aller suivre et être dans l'eau, cet élément que je connaissais peu. Et donc j'ai découvert les fonds marins. Pour moi, ça a été une rencontre avec les eaux et un élément complètement inconnu pour moi.
Vous êtes parti sur une autre planète quand même.
Voilà, tout à fait.
C'est quand même...
une autre dimension.
Et, oui. Vous avez eu le courage et l'audace avec votre compagnon de partir sur vivre, parce que quand vous lirez le livre, chers amis auditeurs, Échographie de Karine Sanseri ou Anima Marin, c'est pas un voyage touristique au Maroc, en Italie, ou même à New York, ou même en Laponie. C'est une découverte humaine, donc les Badjos, mais aussi c'est une découverte de Karine Sanseri d'elle-même, parce que s'immerger en permanence dans l'eau lui a fait découvrir des choses incroyables en elle-même. Voilà, elle a approfondi sa personnalité, sa sensibilité, son émotivité. Vous m'arrêtez si je me trompe ?
Non, c'est tout à fait ça, puisque mon travail plastique est vraiment basé sur du sensoriel. Donc c'est un carnet sensoriel pour moi qui continue à travers les créations de dessins, de gravures sur bois, de monotypes, de travail avec l'eau et la matière. Et donc j'ai voulu retranscrire en fait cette ambiance des fonds marins. C'est très... mon ami a en fait travaillé sur la population, la description du carnet de voyage, de l'architecture, des portraits de chaque personne qu'on a pu rencontrer, avec lesquelles on a vécu. Et moi, je présentais la dimension de l'environnement et donc des fonds marins, quoi, une autre dimension que ce qu'on peut connaître.
Complètement, alors je vais dire quelque chose qui paraît surprenant, je dirais vous êtes dans l'immatériel, alors que c'est faux puisque vous êtes dans l'eau, donc c'est pas immatériel. Mais enfin, on a l'impression que vous êtes tout le temps dans l'eau avec les Badjos et que vous filmez énormément et vous découvrez grâce à cette immersion à ce peuple que vous connaissez, vous découvrez combien nous sommes riches en réalité et combien l'humain a de possibilités. Parce que ces Indiens Badjos, vous m'arrêtez si je me trompe, on dit bien les Indiens Badjos.
C'est pas des Indiens, non. Les Badjos, population de pêcheurs.
C'est pêcheurs nomades, enfin. Oui. En réalité, ils ont une immense richesse en eux. Ils savent parler avec la mer, découvrir la mer. Et on dit qu'en fait, lors du dernier tsunami, comme au fond de leur pirogue, ils ont un trou pour écouter la mer et les fonds marins, ils avaient prévenu les touristes qui n'étaient pas si loin que ça, que le tsunami allait arriver. Ils ont donc sauvé des tonnes de personnes parce qu'eux savaient écouter la mer. Donc c'est une écoute animale ou extrêmement humaine, oui. C'est nous qui avons perdu ce côté humain très puissant, que vous avez redécouvert.
Bien sûr, c'est une écoute, on peut dire aujourd'hui, animale, parce que peut-être on est un peu coupé de notre nature
profonde.
Donc, effectivement, eux, ils sont en contact, ils ont une connaissance de leur environnement
incroyable,
et donc ils sont à l'écoute, ils savent élire dans le ciel, élire dans l'eau, en fonction de là où ils vont pour se repérer, et en pleine mer. Vous n'avez pas beaucoup de repères quand vous êtes à la surface. Hein. Vous voyez l'horizon et vous vous dites, il faut que j'aille à tel endroit pour aller pêcher tel poisson. Donc, ils ont des repères qui sont liés à des petits îlots, à des fonds marins, parce que l'eau est quand même transparente. On voit les reliefs quand on est en pirogue, des fonds. Donc, ils ont toute une connaissance suivant comment les poissons se comportent, suivant le relief aussi. Ils savent plein de choses sur lesquelles nous, on ne pourrait pas.
C'est incroyable ce que vous dites, suivant comment les poissons se comportent.
Oui.
Vous entendez bien, chers amis auditeurs, voir le sens des poissons, ça leur parle. Ils savent si c'est dangereux, s'il faut y aller.
Exactement.
C'est incroyable, en fait. Nous, on écoute le vent et on se dit, il va y avoir la pluie parce qu'on voit le vent qui souffle dans un sens ou dans un autre, on voit les nuages arriver. Et eux, en regardant les poissons au fond de la mer, ils savent ce qui va arriver. Donc, c'est une nouvelle lecture.
Oui, parce qu'ils observent le comportement, leur donnent plein d'informations, en fait. Donc, ils savent qu'il y a des habitudes. Les poissons, comme beaucoup d'animaux, ont des habitudes dans la journée, les heures où ils vont manger, où ils vont sortir de leur habitat. Et s'ils ont des stress ou pas, en fait, ils comprennent beaucoup de choses. Et même, ils peuvent avoir des informations sur des intempéries liées au comportement des animaux marins.
Voilà. Est-ce que les savants se sont approchés d'eux.
Il y a eu des études qui ont été faites.
Ah oui.
Il y a eu un anthropologue aussi qui s'appelle Zakot qui avait travaillé, qui a écrit un livre aussi sur les badjos, les nomades des mers, pour comprendre un peu la manière dont ils vivaient et donc comment ils communiquaient avec cet environnement.
D'accord, il y a quand même eu des études de faites. Vous n'êtes pas les premiers.
Ah non.
D'accord, non, comme personne n'y a été. Alors, je vais vous arrêter, Karine, parce que nous allons maintenant écouter un morceau de musique que vous nous avez recommandé. C'est le duo Ibipio, c'est bien ça?
C'est ça.
Le duo Ibipio, ce sont des Toulousains, chers amis auditeurs, et c'est de la musique impro, puisque Karine est quelqu'un d'extrêmement moderne et d'avant-garde, et elle n'a pas peur de l'impro, et elle fait partie aussi de ce groupe de musique impro, Ibipio. Donc nous allons écouter un morceau qui s'appelle...
Blue Urban.
Voilà, Blue Urbans.
Thank you.
parole d'auteur. Bellita de Bangy.
Après cette petite pause, chers amis auditeurs, nous revenons à Échographie et à Anima Marin, le double livre écrit par Karine Sanseri. Alors, Karine Sanseri, je reviens à ce livre que je vais décrire assez rapidement pour que nos amis lecteurs puissent le découvrir. C'est surtout un livre de peinture, de poésie et un peu de philosophie, quand même, parce qu'on ne fait pas un voyage comme ça.
Il y a beaucoup de gravures aussi et de vidéos.
Oui. Alors, il faut parler de ces vidéos qui sont quand même très originales puisqu'on les a par QR code. Il y a une quinzaine. Alors, dans le premier livre, il y a 12 QR codes et dans le deuxième, il y en a 5 ou 6.
Oui, au total, il y en a 14, je crois.
Oui, voilà. Okay. Et alors, c'est incroyable. Donc, vous êtes transporté par les dessins, transporté par le texte et puis après, vous mettez votre portable sur le QR code et vous descendez au fond de la mer avec Karine, plutôt ses amis plongeurs, ou vous partez en pirogue. Ou...
Disons qu'il y a des vidéos qui sont liées au documentaire, donc c'est vraiment quelques films de vie commune avec les nomades des mers, donc du documentaire, et après il y a les vidéos qui sont en lien avec les œuvres qui sont réalisées, donc au niveau graphique et sensation et sonore, et qui accompagnent en fait les pages qui sont présentées en dessin, gravure ou en écrit, petit poème.
Oui, il y a peu d'écrits. L'introduction dans chaque livre est quand même très profonde, elle est très dense. Les poèmes sont tout à fait adaptés à ces fonds marins ou à l'esthétique de la nature que l'auteur a rencontrée. Je voudrais vous faire une citation de l'introduction qui m'a quand même fait beaucoup réfléchir. Cette plongée profonde... dans un univers matriciel et organique, me fait vivre une dissolution du corps dans les eaux du golfe de Tomini pour révéler ce vide qui soutient le plein, ce clair qui révèle l'obscur. Ça, c'est quand même pas neutre, c'est l'introduction. Donc, il y a une plongée physique et une plongée métaphysique. Et en fait, c'est ce qu'on découvre dans ce livre, c'est que Karine est dans l'eau, mais en même temps, elle est dans un autre monde, sur une autre planète, qui est en fait notre monde, puisque le pays où elle est, l'Indonésie, c'est quand même notre terre. Et nous pouvons aller jusqu'au fond de nous-mêmes, jusqu'au bout de nous-mêmes. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes allé jusqu'au bout de vous-même, mais vous avez vraiment énormément creusé votre personnalité, votre richesse, votre... et peut-être votre équilibre, votre sensibilité avec ce voyage et cette immersion au milieu des badjos. Donc je trouve que cette plongée profonde dans un univers matriciel et organique, ça veut quand même dire beaucoup de choses, me fait vivre une dissolution du corps dans les eaux du golfe de Tomini. Ce golfe de Tomini, c'est donc là où vous êtes.
Voilà, c'est la situation du village qui s'appelle Pulau Papan des Nomades des Mers.
Voilà, donc je rappelle, en Indonésie, à Sulawesi, parce que c'est quand même des noms très très compliqués. Mmh. Alors après, vous dites, je crée à partir d'un quotidien qui n'est pas le mien, mais que vous avez été obligé de faire le vôtre, puisque l'île est minuscule, il y a 300 mètres. Donc vous êtes à partir d'un quotidien qui n'est pas le mien, et c'est précisément cela qui m'intéresse. Alors ça, je trouve ça formidable, écoutez bien, chers amis auditeurs, ça veut dire que quand vous êtes quelque part... oubliez tout et vivez le pays où vous êtes. Donc, Karine Sanseri, elle est dans l'eau, sur les pirogues et sur les petites maisons en pilotis, avec 300 personnes qui ont la peau mate, qui ne parlent pas son langage, qui lui sourient énormément, qui mangent quand même que du poisson, des fruits et du riz. Mmh. Et elle est intégrée, elle s'est adaptée et elle a décidé d'apprendre, de se nourrir d'eux.
Oui, parce que je ne savais pas du tout si j'allais m'intégrer, si j'allais supporter cette vie sur les eaux. Et très rapidement, c'est un élément qui m'a attirée. Et dès que je suis rentrée en plongée aussi longtemps avec les profondeurs marines, Là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une rencontre avec moi-même, sûrement,
avec
et très organique. Et la lumière du soleil qui met en fait tous les fonds marins, c'est assez magique, incroyable. Et là, j'étais fascinée. Donc, j'étais en observation et de la nature et en même temps des nomades des mers qui, eux, quand même, sont des plongeurs hors pair. Quand on les voit, je savais qu'ils faisaient de l'apnée et qu'ils nageaient et qu'ils allaient au fond de l'eau, qu'ils marchaient et qu'ils pêchaient, ils chassaient en marchant au fond de l'eau. La première fois que j'ai vu ça, j'ai pleuré dans mon masque de plongée. C'était un moment très, très fort et de voir...
Jusqu'où l'homme peut aller, quand
voilà,
même.
Voilà, comment ils s'adaptent et...
Comment eux s'adaptent et comment vous avez pu les comprendre.
Oui, parce qu'ils ont
accepté. En allant au fond de l'eau avec eux, en fait.
Oui, parce qu'ils nous ont acceptés. Ils ont bien voulu nous expliquer comment ils vivaient et nous accompagner pour nous montrer un maximum de ce qu'ils étaient et comment leur journée se passait, que ce soit de jour ou de nuit, parce qu'ils pêchent la nuit. On les a suivis la nuit aussi. C'est un peu plus impressionnant, quand même, la nuit.
Vous pouvez préciser quand même comment ils pêchent, parce que les moyens sont très rudimentaires. Les masques sont faits par eux-mêmes. Expliquez-nous comment
voilà,
sont ces masques.
Alors, ils sont en apnée. Ils ont des petits masques. C'est des lunettes en bois qu'ils confectionnent avec du verre. Et ensuite, ils vont pêcher soit donc, en plongée au harpon, soit ils vont pêcher le poulpe beaucoup avec un leurre qui crée en bois et des lambeaux d'habits pour imiter le poulpe. Et donc, ils restent sur une barque et ils, comme une canne à pêche, ils font plonger le leurre et ils le traînent des heures entières jusqu'à ce qu'un poulpe vienne s'accrocher sur ce leurre où il y a des hameçons. Ensuite, ils pêchent juste au fil hameçon, des petits poissons.
C'est rudimentaire quand même.
Oui, assez. Ou alors au filet, la nuit, c'est beaucoup des pêches au filet. Et là, où ils attrapent beaucoup plus de quantité de poissons avec ces techniques-là. Et donc le harpon, voilà, c'est voilà, en gros, c'est les techniques de pêche qu'ils utilisent. Et c'est beaucoup le poulpe qu'ils consomment et qu'ils vendent aussi. Ils font de l'échange aussi. Pour acheter leur riz. Et aussi, ils cueillent les noix de coco et ils en font. Ils transforment la noix de coco en pour tout. En fait, les coques vont servir pour le feu, les récipients. Et ensuite, pour la cuisine, pour les produits de beauté, ils font de l'huile de coco. On peut le voir sur le livre, il y a
le
documentaire
aussi.
Oui,
on le voit tout à fait, oui. L'huile de coco, le coco. Est-ce que vous êtes considérée quand vous étiez là-bas comme une personne de la famille, comme un membre de la famille?
Ça a mis du temps, hein, mais je dirais que de ces trois voyages et rencontres de 2 mois à chaque fois avec eux, oui, déjà, ils nous ont accueillis assez rapidement, même si les 2 premiers mois, ça a été un apprivoisement des deux côtés.
Réciproque, de part et d'autre.
Petit à petit, voilà, ils ont vu nos intentions et ils voyaient qu'on voulait témoigner de leur culture et de ce qu'ils étaient. Et ça leur a beaucoup plu. Ils avaient envie de qu'on travaille avec eux pour que leur communauté perdure, en fait.
Oui, ils ont peur.
Ils ont peur.
Ils sont conscients.
Les anciens sont conscients que tout est en train de bouger, comme on a pu vivre. En fait, les enfants commencent à partir dans les villes. Il y en a de moins en moins qui veulent continuer la pêche. Ils sont happés par le monde moderne. Maintenant, ils donnent des... Ils peuvent... balader des touristes en fait en plongée, comme ils connaissent très bien, il y a des activités comme ça qui se mettent en place parce qu'ils vivent plus assez de leur pêche. C'est
oui,
compliqué.
Parce que j'ai lu qu'il y avait un problème de bombes. On jetait des bombes pour les poissons et qu'il y avait beaucoup.
Il y a eu une époque où en fait, oui, ils pêchaient avec à la dynamite. Donc. Ils récoltaient énormément de poissons de cette technique-là, mais après, ils tuaient les coraux, les fonds marins, et ça dégradait incroyablement les fonds, c'était une catastrophe. Donc là, il y a eu des
interdictions.
Des interdictions. Ça, ils ont arrêté de faire cette technique-là, ou alors au cyanure aussi, ils pouvaient pêcher, ils se sont rendus compte que c'était une grosse problématique, et pour eux, et pour l'environnement. Donc maintenant, il y a quand même la police des mers qui surveille un peu. Ça peut arriver, mais c'est très, très rare. Et ils ont des techniques de pêche, comme je vous ai expliqué, essentiellement.
Très simple. Alors, moi, à travers la lecture de votre livre, ce qui m'a frappée, c'est que pour arriver à communiquer avec ces gens, la chose la plus importante, c'était de tisser des liens sincères. Je pense que quand il n'y a pas le vocabulaire, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de vocabulaire entre vous, je pense que la sincérité doit se percevoir entre gens sincères comme vous l'êtes. On le voit à travers votre livre. Et la sincérité des artistes est quand même souvent reconnue. Et ces gens qui n'ont pas quand même accès à l'esprit tordu du tout. Ils vivent tellement simplement, ils n'ont pas de...
Oui, je peux vous dire, par exemple, j'ai un exemple. Quand on leur disait, donc on vivait en France, et qu'ils nous disaient, il y a des Français qui sont passés, peut-être vous les connaissez, ils nous disaient le prénom Christophe, qui est venu, vous le connaissez. Pour eux, c'était évident qu'on était tous des frères et sœurs et qu'on se connaissait tous, donc
et oui,
c'était...
Une grande naïveté.
Voilà, et en même temps, c'était tellement beau en se disant, mais... qu'est-ce que ça doit être effrayant d'imaginer qu'on ne se connaisse pas et qu'on puisse pas être solidaires les uns envers les autres, en fait.
Oui, mais c'est-à-dire que nous sommes tellement nombreux.
On est beaucoup.
Voilà. On est quand même beaucoup,
donc,
trop
cette
nombreux.
Dimension-là, ils ne la connaissent pas.
Ils sont 300. Ouais. Les Badjos, ils sont 300. Donc, ce lien sincère que vous avez tissé avec eux, c'est ce qui vous a permis d'écrire ce carnet qui est quand même un témoignage extraordinaire et qui vous a permis de montrer des aspects primordiaux du peuple Badjos, mais aussi un aspect au fond de vous, de qui vous êtes. Oui. La richesse de l'être humain, finalement, vous avez été obligé de vous dépasser, finalement, plein de fois. C'est un dépassement permanent, ce voyage. Entre la nourriture...
C'est une aventure. On mange que du poisson et du riz. On est écrasé par
la chaleur,
le soleil, la réverbération. Moi, je suis assez fragile par rapport au soleil.
Oui,
mais
je précise à nos amis auditeurs que vous avez la peau très claire. Donc,
Mais ça s'est bien passé, quand même. Et après, c'est voilà, le rapport des baignades. C'est pas rien d'être... tout le temps dans cet élément, en fait. Moi, je crois qu'au bout d'un moment, j'ai connecté avec les eaux.
Je pense, oui. Le livre, c'est à travers le livre, moi, je peux vous dire que vous avez connecté avec les Badjos et avec l'eau et avec le paysage que vous avez...
Et du coup, mon idée, c'était de rendre au plus proche les sensations que j'ai pu vivre et aussi rendre le portrait des coraux, de tous ces éléments qui habitent les fonds marins et des poissons, mais vraiment par la matière. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé beaucoup de médiums qui peuvent enrichir, en fait, la représentation de cet élément-là. Donc, pour moi...
Vous voulez parler de vos gravures sur bois, des monotypes, des vidéos, tout ce travail artistique que vous avez fait
Voilà, qui a été fait sur place. Et donc, j'ai utilisé les eaux de mer pour faire mes monotypes. Donc, j'avais vraiment envie que l'œuvre soit liée vraiment directement avec le monde des Badjos, les eaux marines. Pour moi, je faisais ma petite alchimie en faisant des tests avec les eaux marines, les eaux salées pour les monotypes. Et j'arrivais à retrouver des matières qui faisaient comme une mémoire des fonds marins que je venais de voir dans la matinée et qui se décrivaient.
C'était le prolongement naturel. C'était le prolongement naturel. Voilà. Vous sortiez de l'eau et vous faisiez ces œuvres d'art.
Voilà.
Et ça vous était spontané.
Spontanément et avec les habitants autour de moi, parce que forcément tout le village avait une curiosité énorme, et donc quand on travaillait on était entouré de vingtaines de personnes autour de nous pour voir ce qu'on faisait, et le travail de mon ami Christophe était assez évident, hein. Quand on fait des portraits, les maisons, on comprend.
C'est plus facile à comprendre.
Mais mon travail à moi était un peu plus énigmatique et ils comprenaient pas trop ce que j'étais en train de faire, et progressivement d'un coup, ils voyaient ce qui se passait, ils voyaient si c'était une algue, si c'était un banc de poissons, si c'était des coraux, et ils étaient assez fascinés à la fin, ils comprenaient mon travail, surprise.
Oui, c'est surprenant. Alors, vous parlez dans le livre numéro 2, Anima Marin, qui représente ce que vous avez vu au fond de l'eau, vous dites « Je garde en moi le souvenir des Bachos, gardiens de la mer, une éternelle mélodie de rire, de joie pure et sincère, un monde vibrant. » C'est comme ça qu'ils sont, les Bachos?
Oui, tout le temps. Ils chantent toute la journée, ils rigolent tout le temps. Et ils se parlent de baraque à baraque à travers leurs fenêtres, donc c'est...
Il n'y a pas besoin de téléphone.
Non, c'est une musicalité en permanence, plus celle des eaux. Alors là, on est dans un concert où les moteurs des pirogues, tout est, pour moi, en harmonie. Je l'ai senti comme ça.
Mais c'est on le sent très bien dans le livre, en réalité. On a l'impression que c'est un peu un petit paradis, quand même, malgré une certaine misère. Parce que les photos sont...
C'est paradisiaque, mais après, la vie est dure de par les éléments, parce que le sel, eux, ils se font une plaie avec les coraux, ils peuvent en mourir, c'est quelque chose de...
Oui, quand ils sont malades, que font-ils?
De rude, hein. Oui. Ils n'ont aucun soin, ils ont pas de moyens de... les gens peuvent mourir très tôt, en fait. Les enfants font très attention parce qu'ils sont initiés par le jeu tous les jours à 6 heures. Ils vont plonger, ils se regroupent tous les enfants et ils comprennent un peu le milieu dans lequel ils vivent, les dangers. À 2 ans, ils sont déjà en train de plonger et donc il faut qu'ils soient alertes par rapport à tous les dangers de la mer. Donc le sel, le soleil, ils ont beaucoup de problèmes de peau, des yeux aussi, en plongeant tout le temps. Donc c'est quand même une vie rude. Hein,
Est-ce qu'ils ont envie ? Est-ce qu'ils vous ont envié ? Est-ce que vous avez montré que vous aviez des médicaments, des choses qui rendraient la vie plus confortable ?
Bien sûr qu'ils recherchent le confort comme ce qu'ils peuvent voir à travers les touristes, hein, en fait. Ouais. Mais s'ils n'ont pas les informations des dangers, de ce qu'on peut leur amener ou pas, parce que aussi le sucre, les aliments, il y a des choses qui leur ont pas fait du bien, en fait, et parce qu'ils savent pas s'en servir ou parce que ils ont pas la conscience de ce que ça peut amener. La cigarette aussi, c'est un fléau.
Oui, alors je vais aborder un problème très simple mais très rapidement parce qu'il nous reste très peu de minutes. Comment ont-ils de l'argent? Vous dites qu'ils envoient leurs enfants, ils ont envie de partir, mais où trouvent-ils de l'argent? Puisque là, on a l'impression que vous vivez de chasse, de pêche, de poisson, d'échange, de troc. Je te donne 3 sèches, tu me donnes 1 kilo de riz, je te donne...
Voilà. Oui, ils font du troc, mais ils ont de l'argent, peu d'argent. C'est le chef du village qui gère beaucoup au niveau pécunier.
L'imam, mais c'est l'imam ou le chef?
C'est pas l'imam, c'est le fils de l'imam qui est le chef du village et qui a fait des études et qui fait le lien entre le monde moderne et leur culture, en fait. Et ils peuvent gagner de l'argent justement en vendant leur pêche, les produits qu'ils réalisent avec la coco, ou alors...
Et où mettent-ils l'argent?
Et alors, dans tous des outils qu'ils peuvent avoir besoin,
attendez,
l'essence, les bateaux,
mais y a pas de banque là-bas.
Le riz.
Il n'y a pas de banque.
Non, il faut aller sur l'île de Sulawesi pour avoir...
Ah oui.
Ils y vont de temps en temps. Ils peuvent prendre un ferry qui passe régulièrement et aller dans des villes, mais c'est très rare, où c'est toujours les mêmes personnes qui vont.
Et le ferry passe quand pour aller sur
Il passe une fois par semaine.
Ah, quand même, oui, une fois par semaine. Chère Karine, je vais être obligée de... Nous allons bientôt nous arrêter. Je voudrais encore redire le titre de votre double livre, Échographie, chez les Bachos, nomades des mers, ou Anima Marin, toujours chez les Bachos, nomades des mers. Où peut-on trouver ce livre? Et je voudrais aussi dire à nos amis auditeurs que vous allez faire une exposition toujours sur l'eau, puisque l'eau est votre passion, au mois de juillet et au mois d'août, donc à Arfon, sur la Montagne Noire, à 1 heure de Toulouse. Après Revel, vous dépassez Revel, vous prenez la route de Sorèz et vous montez dans la Montagne Noire, dans un ravissant village qui s'appelle Arfon. Et la Karine et son compagnon vont faire une exposition sur les eaux de la Montagne Noire. C'est pas la première fois que Karine fait une exposition sur l'eau. Elle a déjà fait une exposition qui s'appelait Osmose à Toulouse. Et donc ce thème qui lui est si... qui est si fort en elle et qui l'a imprégnée, qui l'a touchée, qui l'a imbibée, elle fera cette exposition avec ses peintures, ses poèmes et sa présence en juillet et août à la mairie d'Arfon. Un lieu à retenir et un livre à retenir tout de suite après l'émission, Anima Marin ou Échographie chez les Bachos, nomades des mers. Où peut-on trouver ce livre, Karine? Karine,
alors,
sans série.
Alors en ce moment, comme c'est une auto-édition, vous pouvez me contacter. Moi, j'ai des livres en stock et ensuite...
Par Internet, Karine
par
Sanseri.
Par Internet, voilà.
S-A-N-C-E-2-R-Y, Karine Sanseri. Oui.
Voilà, Karine Sanseri.
Sur Internet.
.com, c'est sur mon site. Vous avez accès en fait à une vente en ligne ou alors... progressivement, je vais essayer de les mettre en dépôt dans certaines librairies. Mais pour l'instant, c'est tout neuf et ça va se faire.
D'accord. Donc, à la mairie d'Arfond, quand il va y avoir l'exposition, vous trouverez ce livre. Oui. En juillet, août, une très belle exposition à voir. Ça vous permettra de découvrir les peintures de Karine Sanseri, qui peint depuis maintenant combien d'années ?
Je dirais depuis une douzaine d'années.
Depuis une douzaine d'années. Avec une maîtrise des couleurs et du crayon tout à fait remarquable. Une artiste à suivre et à lire. Et un exemple humain. À bientôt, chers amis auditeurs.
Merci.